Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, Bruxelles, capitale introuvable. Bonjour Éric Corail.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et sociologue, professeur émérite de géographie humaine et sociale à la VUB, la Vrije Universiteit Bruxelles.
Vrije Universiteit Brussel.
Merci beaucoup. Vous êtes le fondateur du centre de recherche Cosmopolis. Vous venez de publier aux éditions SAMSA « Une ville n'est pas un pays » et puis un texte collectif pour la revue politique « Demain, Bruxelles ». Alors de quoi parle-t-on quand on parle de Bruxelles? De la capitale de la Belgique, bien sûr, mais pas seulement. Bruxelles, c'est le diminutif donné aux institutions européennes, en particulier à la Commission, l'Europe tout entière et sa bureaucratie incarnée dans un seul nom. A priori, Bruxelles avait tout d'une évidence pour devenir la capitale du projet européen. Situation géographique centrale, en tout cas à l'origine, diversité linguistique, de très nombreuses nationalités présentes dans la ville, un exemple d'intégration attirante et émancipatrice, une ville de l'européanité, comme on peut le lire dans un de vos livres. Sauf qu'il s'agit ici d'un souhait pour l'avenir, car la réalité est tout autre, entravée par une organisation administrative d'une grande complexité, un empilement de pouvoir. Bruxelles, la Belge, connaît les mêmes difficultés que Bruxelles, l'européenne. Elle doit faire face à la montée des nationalismes, aux velléités de sécession. Alors Bruxelles, capitale introuvable, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Éric Corail. Un numéro que nous enregistrons dans les bureaux de Radio France à Bruxelles. C'est là que nous nous sommes donné rendez-vous. Mais si c'est vous qui aviez choisi de nous donner rendez-vous dans un endroit, dans un quartier qui symbolise pour vous le mieux ce qu'est cette ville, on se serait retrouvé où?
Ben, on se serait trouvé dans différents pôles. Parce qu'en réalité, la réalité de cette ville, c'est qu'elle est multipolaire et multi-échelle et que donc, en fait, chaque culture et chaque expression de la multiculturalité a son centre. Il y a le centre africain, il y a le centre maghrébin, il y a le centre historique de la ville, il y a ici le centre européen, et c'est des centralités tout à fait différentes. Il y a le quartier universitaire qui est ailleurs aussi, et donc on aurait dû faire un petit voyage.
Oui, parce qu'il n'y a pas un seul endroit qui synthétiserait tout ce que représente Bruxelles.
Ben non, il y a le centre historique naturellement, où tout le monde vient, la grande place, le Pentagone, qui est la ville médiévale. Depuis, la ville s'est agrandie, la révolution industrielle, mais l'internationalisation a marqué la ville à différents endroits.
Alors, c'est une ville qui est très multiple, justement, dans son organisation. Est-ce qu'il y a de la fluidité entre ces différents quartiers, et notamment entre ce qu'est le Bruxelles, on va dire, historique, et puis ce nouveau quartier, qui est plus si nouveau que ça, quand même, maintenant, aujourd'hui, puisque ça date de la fin des années 50, mais qui est le quartier européen. Moi, j'ai lu quelque part que les Bruxellois fréquentaient très peu ce quartier européen.
Ben oui, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il n'en a pas besoin des administrations. L'Europe à Bruxelles, c'est beaucoup trop, disons, une administration, c'est beaucoup trop des bâtiments bancaires, et beaucoup trop peu, disons, une attraction culturelle. Bien entendu, il y a maintenant le Parlamentarium, où on peut visiter, disons, l'histoire du Parlement européen. Il y a le Musée Europe qui commence à attirer des gens. Mais en gros, ce qui manque dans ce quartier, c'est vraiment la culture européenne.
Est-ce que ce qui peut aussi expliquer le fait que les Bruxellois viennent peu dans ce quartier, au-delà du fait qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à y faire si on ne travaille pas soi-même dans les institutions européennes, est-ce que ça ne vient pas aussi peut-être d'une forme de rejet que pourraient avoir les Bruxellois par rapport à cette population peut-être si particulière qui travaille dans les institutions? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de défiance?
Oui, ce n'est pas un bon mariage, ça on peut le dire. Ce n'est pas par rapport aux populations, mais par rapport au fait que les administrations sont arrivées ici comme un ovni. En fait, c'est l'État belge qui les a placés comme des bâtiments sur des lotissements sans vraiment en faire un projet urbain. Et ce n'est que, disons, depuis 10 ans qu'on réfléchit à Bruxelles cette question du devenir de la capitale de l'Europe. Et dans ce sens, on doit quand même dire aussi qu'une capitale est plus que le lieu où l'État, où l'administration, où le pouvoir est physiquement présent. La capitale est aussi le lieu où, disons, le projet, le moteur du projet, là, des grandes universités, d'un grand musée, une parade annuelle, etc. Et dans ce sens, l'Europe n'a pas de projet, n'a pas d'université européenne, il n'y a pas vraiment de festival artistique. Et donc, à ce niveau-là, l'Europe manque de l'imaginaire qui est nécessaire. Et là, ma position, c'est que même si l'Europe ne le fait pas, c'est un bon projet pour Bruxelles.
Alors à propos justement de cet imaginaire et de la façon dont il peut être incarné ou ne pas être incarné par l'architecture qui a été choisie, il y a un livre qui vient tout juste de sortir en France, qui est signé d'un journaliste qui s'appelle Ludovic Lamant. Ça s'appelle « Bruxelles chantier, une critique architecturale de l'Europe ». Et il dit notamment ceci, c'est sorti aux éditions Luxe, « Ni grandeur, ni beauté intimidante, l'Union européenne ne se réfugie pas à Bruxelles derrière des bâtiments grandiloquents. Elle préfère faire comme si elle n'avait pas de valeur à défendre. Il y a là une forme de franchise qui détend. La médiocrité du bâti est donnée d'emblée. Les failles sont exposées. » Est-ce que quand on regarde les bâtiments des institutions européennes, ça dit quelque chose de l'état du projet européen pour vous, Eric Corine?
Oui, absolument. Je pense que le projet européen est un projet, disons, économique, un projet d'unification du marché, un projet de réglementaire, mais pas un projet qui peut attirer la citoyenneté européenne. En réalité, tout ce qui a trait à la reproduction socio-culturelle revient aux États-nations, aux États-membres. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet vraiment intellectuel, artistique, imaginaire, et donc tout le monde est forcé à avoir un rapport extérieur à l'Europe. Nous, les Français et l'Europe. Nous, les Allemands et l'Europe. Mais alors, nous, les Européens, ça voudrait dire quoi? Et donc là, il y a vraiment un manque, et je suis tout à fait d'accord avec les diagnostics sur l'architecture. L'architecture est une architecture bureaucratique, bancaire, on peut dire, et pas vraiment quelque chose qui peut enthousiasmer le citoyen. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici passer un week-end pour voir la capitale de l'Europe. Eh bien, on voit justement le moloch bureaucratique plutôt qu'un beau projet.
Vous diriez d'ailleurs qu'en général, l'architecture d'une ville dit des choses justement sur les politiques qui peuvent y être menées, pas seulement pour le quartier européen de Bruxelles, Eric Corine.
Bien sûr, surtout l'architecture monumentale montre le projet d'une certaine façon. Hein. Donc il y a eu toute la période des églises, et puis la période industrielle, c'est les gares, c'est les bâtiments qui font fonctionner le marché, puis c'est les grandes institutions culturelles, les opéras, les centres culturels. Ben, rien de cela à Bruxelles qui est donné par l'Europe, en fait.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre, justement, de cette ville si particulière qu'est Bruxelles, quand on se promène dans ces différentes rues, dans ces quartiers, dans ces différentes communes? Parce que c'est une organisation, on va y venir, hein, qui est assez complexe que cette organisation bruxelloise, Eric Corine.
Ben, la ville est devenue une petite ville mondiale en 30-40 ans, en fait. Actuellement, on est 1 200 000 dans les 19 communes qui forment la région Bruxelles-Capitale, et qui est donc en réalité la ville, la métropole la plus grande, fait 3 millions d'habitants en gros, et la composition sociale de cette ville a radicalement changé, radicalement. En 68, il y avait 1 070 000 habitants la capitale de la Belgique, des belgo-belges, classe moyenne blanche, etc. Actuellement, 2/3 de la population vit dans des familles multilingues, presque 3/4 de la population a des racines étrangères, et les deux communautés actuellement belges, en fait, qui forment les écoles, les centres culturels, la socialisation, font qu'une minorité dans cette ville. Et donc c'est une ville où l'étranger, mais dans le bon sens du mot, l'autre est présent au quotidien.
Il y a une identité bruxelloise, et comment est-ce qu'on pourrait la définir? Comment est-ce que vous la définiriez en tout cas?
Ben, moi je dis que c'est donc une ville. Moi j'oppose l'urbanité à la nationalité. La nationalité qui se raconte par une histoire commune, qui forme une identité, une tradition, et donc quelque chose de fort qu'on doit continuer. Ici, à Bruxelles, tout le monde vient d'ailleurs, en fait. Il n'y a pas de racines communes. Et donc, c'est un destin commun qu'on doit se raconter. Et donc, c'est un projet de ville. C'est quelque chose qui se construit. C'est un chantier de bricolage, en réalité. Et donc, régulièrement, on voit comme la Zineke Parade, la parade qui sort tous les 2 ans, qui est formée dans les quartiers, ou la bruxellitude, mais quelque chose de très précaire, bricolé, où tout le monde se reconnaît d'une certaine façon. Et donc, je pense que Bruxelles est une ville avec un État faible, relativement faible et segmenté, avec une société civile très active, et qui, il faut le dire aussi, avec beaucoup de conflits communautaires, mais sans guerre civile. Hein, il n'y a pas de ghetto à Bruxelles. Il y a donc un mélange de tout à Bruxelles.
Mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites, Eric Corren, c'est que j'ai l'impression que ce que vous dites de Bruxelles et de cette identité difficile à définir, fragile, avec un État faible, avec un éclatement comme ça des racines et la difficulté peut-être justement de trouver quelque chose de commun, ça pourrait être aussi valable pour décrire ce qu'est l'Union européenne.
Ben, exactement, oui. Si on a une autre lecture de l'Europe, qui n'est pas seulement 28 États membres et des États-nations qui se racontent comme une unité culturelle avec la grande différence avec l'étranger est ailleurs et dans les autres pays. Si on regarde réellement l'Europe, on voit qu'il y a un centre, une banane bleue entre l'Angleterre du sud jusqu'au nord d'Italie, où trois quarts de l'économie est concentrée, où plus de 60% de la population vit sur un territoire qui est moins de 20%. Et puis, il y a les métropoles qui sont reliées entre eux. Et donc, cette Europe urbaine, en réalité, qui partout est un changement profond, et donc une ville, là, on vit ensemble sur base de la diversité, sur base de la différence, en fait, et pas sur l'identité, sûrement pas sur l'identité nationale seulement. Et donc, dans ce sens, la ville n'est pas le pays. Et si on regarde cette Europe-là, on devrait pouvoir l'exprimer en réalité. Et là, je prétends que Bruxelles, étant la ville la plus diverse d'Europe, peut montrer l'exemple, peut être une base vraiment pour cette européanité.
Alors, est-ce que c'est pour ces raisons qu'à l'origine, Bruxelles a été choisie pour accueillir les institutions européennes, et pas seulement d'ailleurs, hein, parce qu'il faut dire aussi que l'OTAN, dont on célèbre le 70e anniversaire, a aussi son siège à Bruxelles. En tout cas, il y avait, semble-t-il, c'est ce que disent notamment les historiens, un historien de l'Europe, Sylvain Kahn, il y avait du terrain disponible, il y avait une centralité de Bruxelles et de la Belgique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 6 pays, le Benelux, la France, l'Italie et l'Allemagne. Et puis, ça a suscité donc énormément de travaux. Ça a beaucoup bousculé Bruxelles à la fin des années 50. Ouais. Écoutez ce qu'on disait dans une émission de France Inter en 2010, l'écrivain bruxellois Thierry Demey.
La construction du quartier s'est faite de manière chaotique, simplement parce qu'on a construit sans égard pour les quartiers avoisinants. On s'est implanté là sans souci de cohérence et d'intégration dans le tissu urbain, qu'on a démoli purement et simplement sans état d'âme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas fait dans l'ordre et avec un plan d'aménagement qui soit cohérent et pensé. Il faut dire à la décharge des autorités belges, c'est que l'implantation de l'Union européenne à Bruxelles a revêtu le caractère provisoire jusqu'en 1992.
C'est très tardif, hein, Eric Corren.
Ben oui, parce que les six, quand ils ont signé le traité de Rome, n'avaient pas un projet d'unification européenne. Et en 58, il fallait 300 administrateurs de ces traités. Maintenant, ils sont 40 000 à travailler. Ils sont 120 000 autour des institutions européennes à Bruxelles. Mais il y avait 300 personnes qu'on devait loger. Et quand De Gaulle avait repris la France en 58, il pensait que Paris devait être automatiquement cette capitale. Les cinq autres étaient d'accord que ça ne devait pas être Paris. Et donc, en réalité, c'est tout à fait par hasard que Bruxelles est devenue, parce que la Belgique commence avec un B, et parce que le ministre des Affaires étrangères belge était le premier président du Conseil des ministres. Et donc, il devait loger provisoirement 300 administrateurs de ces traités. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est vraiment par hasard qu'on est arrivé à Bruxelles, sans grand dessein, sans grand projet. Et ça explique aussi ce que Demey souscrit. Il n'y a jamais eu de projet urbain d'en faire la capitale de l'Europe. Il y a eu quelques emplacements de bâtiments administratifs. Et c'est un peu comme ça que l'Europe a atterri ici à Bruxelles.
Est-ce que ça peut expliquer aussi le fait, Eric Corren, que peut-être que pour les Bruxellois, ça a retardé le fait qu'ils s'approprient aussi l'idée que leur ville était une capitale européenne parce que elle est restée capitale provisoire jusqu'à une date assez récente?
Oui, et avec des effets pas toujours positifs pour les Bruxellois. Bruxelles était, au niveau international, au niveau l'immobilier est pas très cher. Hein. C'est pour ça que, disons, les étrangers les plus en nombre ici à Bruxelles sont les Français, presque 60 000 Français qui habitent à Bruxelles, qui prennent le train, enfin, une partie prennent le train très tôt le matin pour aller à Paris travailler.
Voilà, surtout ceux qui connaissent le prix de l'immobilier à Paris, voilà. Constatent qu'à Bruxelles, c'est quand même...
Exactement, et c'est plus vite de Bruxelles au centre de Paris que de la banlieue parisienne au centre. Donc, des tas d'avantages. Mais donc, les Bruxellois en ont payé le prix, parce qu'il y a une flambée depuis les années 90, il y a une flambée vraiment des prix de l'immobilier. Il y a toutes ces expatriés, en fait, qui dominent un peu le marché aussi de consommation. Et donc, ça ne rend pas la vie plus facile pour la pauvreté qui existe aussi à Bruxelles. Un tiers de nos habitants vivent sur ou sous le seuil de pauvreté.
Oui, ce sont d'ailleurs des choses que vous évoquez dans cet ouvrage collectif « Demain Bruxelles ». Bruxelles, parce que, alors, écrit Bruxelles, c'est-à-dire oui. Vous reprenez un mélange de l'orthographe francophone, néerlandophone et anglais, voilà, oui. Ce qui donne finalement peut-être une nouvelle langue et en tout cas une identité, à cette identité en tout cas que vous souhaitez pour Bruxelles. Mais dans cet ouvrage collectif, vous republiez la conclusion des états généraux de Bruxelles qui datait de 2009 oui. Et qui étaient des états généraux qui constituaient en un programme pour l'avenir de la ville. Et il y avait notamment ce constat, les institutions européennes doivent prendre leurs responsabilités dans le développement et le financement de leur ville d'accueil. Ça, c'était il y a 10 ans. Est-ce que vous diriez que 10 ans après, les institutions européennes ont pris leurs responsabilités, ou bien est-ce que c'est toujours quelque chose qui fait partie du futur, disons Eric Corrine?
Ben, les deux. Je pense que les mentalités ont changé. La commission a un maître architecte. On collabore beaucoup mieux pour les plans d'urbanisme, etc. Mais ça ne se voit pas encore sur au niveau des investissements. Les institutions européennes devraient investir dans un centre culturel européen, dans une bibliothèque multilingue où on rassemble toutes les langues de l'Europe, dans un centre de traduction, parce que Bruxelles est vraiment une ville où tout se traduit toujours. Et donc il y a des atouts ici dans cette ville et que le projet européen bénéficierait à mettre un peu d'argent sur l'artistique, l'intellectuel, la recherche, etc., et de le positionner ici.
Sauf que la culture n'est peut-être pas une priorité des institutions européennes, et notamment de la Commission européenne. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un roman qui vient d'être publié d'un écrivain autrichien qui s'appelle Robert Menas. C'est chez Verdier, ça s'appelle « La capitale ». Ça se passe dans les coulisses, justement, de la Commission européenne. On y voit notamment une haute fonctionnaire de la Commission qui était avec le commissaire du commerce, qui est promu à la commission culture, mais qui le vit très mal parce qu'elle considère, et tous ses collègues aussi, que la culture, c'est quelque chose qui ne sert à rien, qu'il faut être soit à la concurrence, soit au commerce, mais que voilà, la politique culturelle, c'est vraiment pas quelque chose de valorisant pour le projet européen. Donc peut-être que ça explique aussi ce que vous dites, Eric Corrine, qu'il n'y ait pas encore ce grand festival ou cette grande institution qui pourrait incarner l'Europe. Mais il faut dire aussi quand même qu'à la décharge, peut-être cette fois, des institutions européennes, que c'est pas facile non plus de faire quelque chose à Bruxelles, c'est-à-dire à qui on s'adresse. La ville, et vous le dites là aussi hein, dans vos livres, ce que vous déplorez, c'est que c'est un imbroglio administratif incroyable. Quand on veut faire quelque chose à Bruxelles, il ne faut pas s'adresser à un interlocuteur, mais combien, une dizaine à peu près pour...
Il y a 43 responsables pour la culture, et donc il y a 19 communes, qui sont des communes indépendantes, il y a la région, il y a deux communautés culturelles, la flamande et la française, et puis il y a l'international, hein, donc il y a plus de 300 représentations régionaux, des régions et de villes qui sont ici. Ceci dit, ce n'est pas une bonne excuse pour l'Union européenne, parce qu'en même temps, ça donne beaucoup d'opportunités. On peut faire tout et rien à Bruxelles. On ne doit pas demander tellement d'autorisation. S'il y a des initiatives dans la société civile porteuses, ils peuvent se réaliser. Et c'est vrai, l'Union européenne paye un grand prix maintenant d'avoir manqué l'imaginaire. Parce que chaque fois maintenant qu'il y a une petite crise ou que les gens se sentent pas tout à fait à l'aise, ils retournent au nationalisme, au protectionnisme traditionnel. Et ça explique aussi un changement. L'Europe devient de plus en plus consciente que sans un projet mobilisateur, ils vont pas tenir la population pour ce projet. Après le Brexit, par exemple, et je pense vraiment que des nouvelles politiques, surtout au niveau des villes, l'urbanité et donc le travail, disons, d'essayer d'exprimer cette multitude qui est dans les villes européennes, va faire partie du projet bientôt.
Mais justement, est-ce qu'avec cet imbroglio institutionnel, cette organisation très particulière, ces conflits linguistiques qui existent en Belgique Et aussi à Bruxelles, Eric Corrine, est-ce que finalement la ville de Bruxelles ne finit pas là aussi par incarner en tout cas cette problématique de la montée des nationalismes en Europe? C'est-à-dire on peut le voir aussi de manière plus microscopique, disons, mais dans la capitale belge.
Ben justement pas. Parce que Bruxelles montre qu'on peut surmonter cela. Chez nous, les pièces de théâtre sont surtitrées ou sous-titrées en différentes langues. On a trouvé des moyens à faire de l'interculturel vraiment le levier de développement de cette ville. Chez nous, il y a eu 700 élus locaux récemment dans les élections communales. Aucun élu d'extrême droite, aucun élu de fondamentalisme islamique non plus. C'est-à-dire, c'est une ville quand même qui vit en paix, en gros, et qui sait gérer cette multiplicité, en faire vraiment un bénéfice. Et je pense que là, il faut vraiment venir voir de près comment faire pour vivre ensemble sur base de la diversité.
Alors là, j'entends déjà des objections quand vous dites cela. On va vous dire, oui, mais et Molenbeek ? Molenbeek, dont on a évidemment énormément parlé en France après les attentats de novembre 2015 à Paris, puisque certains des terroristes du 13 novembre venaient de ce quartier bruxellois. Est-ce que là, c'est pas plutôt l'exemple inverse ? Mais peut-être faut-il toujours des exceptions que cette intégration, cette identité multiple bruxelloise ne fonctionne pas si bien que ça, Eric Corrine.
Je vous invite à venir se balader à Molenbeek. Molenbeek, c'est vrai que c'est un millier, peut-être 2000 qui ont été pris par la radicalisation et par le sectarisme, mais c'est en même temps des milliers de personnes qui vivent pas mal à Bruxelles et qui résistent d'ailleurs l'image un peu spectaculaire que les médias sont venus faire. Moi, je nie pas que des terroristes ont vécu et viennent de Molenbeek, mais ce n'est pas, on ne peut pas identifier Molenbeek comme cela. Moi, je donne cours chaque vendredi à Molenbeek, sur Bruxelles, pour des populations, et c'est vraiment une partie de la ville tout à fait urbaine et urbanisée. Ceci dit, où, avec beaucoup de pauvres, avec beaucoup de chômage, c'est un quartier populaire qu'on soigne pas très, très, très bien, et à ce niveau-là, il y a des choses à faire, mais l'image donnée par Molenbeek, par des gens qui ne sont jamais venus comme le président Trump, n'est pas exact, en fait.
Faisons un rêve, si vous voulez bien, Eric Corrine, et imaginons quel pourrait être l'avenir institutionnel de Bruxelles. Mais en vous lisant, je me disais, finalement, peut-être que son projet, ça serait de, on va pas dire de déclarer l'indépendance de Bruxelles par rapport à la Belgique, mais en tout cas de la rendre beaucoup plus autonome, et peut-être d'en faire une ville, alors, avec un statut à part, parce que, justement, ce qui s'y passe est à part et du reste de la Belgique et du reste de l'Union européenne.
Oui, je pense que Bruxelles est un exemple de ville mondiale, en fait, qui sont plus proches du monde que de leur pays. La Belgique est en train de s'évaporer au niveau de projets d'État-nation. Et à Bruxelles, c'est, disons, la mission internationale qui est la plus importante. Et donc, vraiment, oui, je pense, pas institutionnellement un district ou européen ou des choses comme cela, mais au niveau du projet, du mental, de l'infrastructure culturelle, des écoles par exemple, de faire des écoles multilingues ici, de travailler vraiment tout ce qui est possible dans cette ville. Tout le monde se représente en ville. Si on veut faire de la musique mondiale ici et on a besoin de différents instruments, il faut pas les inviter d'ailleurs, ils sont dans le quartier. Et c'est cette montée-là qui a produit Stromae, qui a produit Zap Mama, c'est vraiment du monde à Bruxelles que c'est sorti. Et je pense que ça, c'est le futur à travailler de cette ville.
Voilà, de Stromae à Zap Mama, c'est un panel musical assez diversifié. Eric Corrine, je disais au début de l'émission que cette ville, enfin, quand on ne parle pas seulement d'une ville, mais Bruxelles, en tout cas de l'extérieur, c'est aussi les institutions, c'est un peu le gendarme de l'Europe. Quand on est bruxellois, qu'est-ce que ça fait d'entendre cette confusion, disons, entre ce qu'est la ville et puis ce qu'elle représente au niveau des institutions?
C'est très frustrant. Nous, on a fait des recherches là-dessus, un peu regardant les journaux et comment le signifiant Bruxelles est employé. Bruxelles a décidé que... chaque fois que les ministres reviennent de Bruxelles dans leur pays et ont pris une décision pas tellement populaire, ils disent « Bruxelles a décidé ». Et donc, on manque de voir la ville derrière, la population, les Bruxellois, qui sont aussi derrière ce signifiant. Et ça nous fait de la peine, en fait, que l'Europe n'est pas plus positive aussi. Et que donc, Bruxelles, c'est quelque chose de négatif, parce qu'on pense que c'est une bureaucratie immense. Elle n'est pas tellement immense, d'ailleurs, en réalité. Il faudrait changer cet imaginaire, et pour l'Europe, et pour notre ville, en fait.
Alors on voit que Bruxelles n'est pas réductible à une seule vision, d'autant moins que la ville, ça on le sait peut-être un petit peu moins, évolue également dans des univers parallèles. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Et vous avez pu le constater en empruntant le couloir d'accès aux cités obscures.
Oui, ce monde parallèle donc des cités obscures, c'est le grand cycle de bande dessinée de François Skuyten et Benoît Peters. Un album de cette série est consacré à Bruxelles, rebaptisé pour l'occasion Bruxelles. Cependant, obscur de la capitale belge croule littéralement sous les grands travaux et finit d'ailleurs par s'effondrer. Alors j'ai rencontré le dessinateur François Skuyten et je lui ai demandé pourquoi il s'était focalisé sur ces grands travaux bruxellois. Qu'est-ce qui s'est joué dans ces transformations urbaines de la ville depuis le 19e siècle ? On écoute.
Alors c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des hypothèses. Pourquoi une ville s'est à ce point, je dirais, brouillée? Pourquoi elle s'est infligée des travaux aussi impactants pour sa cohérence, pour son âme? Et effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, évidemment, le couvrement de la Seine, qui a été terrible parce que c'était brusquement transformé le sang, le cœur fluide d'une ville en un égout. C'est quand même pas anodin. Et bon, il y avait des tas de... Il fallait pour bien assainir la ville, mais en réalité, ça lui enlevait une partie de son âme. Les travaux du palais de justice ont été considérables aussi. Ça a 20 ans de travaux, ce monstre extraordinaire de pierre qui domine la ville, mais qui ont en partie traumatisé le quartier des Marolles. Et puis, on a eu comme ça une série de chocs. Après, il y a eu la jonction Nord-Midi, 50 ans de travaux pour cette jonction Nord-Midi. Et puis après ça, on a eu encore un second choc qui a été évidemment l'arrivée des années 60, et 50-60, où là on se met à faire des tunnels, des viaducs, des machins, et c'est encore des conséquences considérables pour la cohérence de la ville.
Et face à ces bouleversements, quel est le rôle de la fiction ? Peut-être d'expliquer l'inexplicable en imaginant des passages, des accès entre le Bruxelles des mondes parallèles et la ville réelle.
Cet ensemble de brutalité nous interroge. On peut pas s'empêcher de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est à l'origine de ça, la démolition de la maison du peuple, etc. Alors il reste des choses formidables à Bruxelles, et justement peut-être que tous ces traumatismes ont créé quelque chose aussi de troublant, de surréaliste, d'étrange, presque de fantastique. Et c'est pour ça que cette fiction était comme nécessaire pour expliquer, pour essayer de comprendre. Les récits sont là pour nous aider à vivre avec l'incompréhensible. Et donc, on avait besoin de se raconter cette fiction qui a un monde parallèle. On est relié à ce monde parallèle qui, sans doute, est encore plus fantastique, plus fou. Et il y a des points de jointure qui se passent au palais de justice, qui se passent dans différents lieux, dans ces zones un petit peu traumatisées, dans ces bâtiments qui ont été détruits et dont il reste encore des traces, dans ces souterrains bizarres. Oui, il y a là comme un autre imaginaire de Bruxelles qui perdure.
Voilà, François Skuyten, co-auteur avec Benoît Peters de l'album Bruxelles, édité chez Casterman.
Eh ben, merci beaucoup Eric Corain d'avoir participé à ce numéro de Politique. Alors je rappelle le titre de vos deux ouvrages qui viennent tout juste d'être publiés. Un essai aux éditions Samsa, Une ville n'est pas un pays, plaidoyer pour la révolution urbaine. Et puis je vais vous laisser prononcer le titre de cet ouvrage collectif pour la revue Politique.
Demain Bruxelles.
Voilà, une vision.
Une vision pour libérer notre ville.
Merci beaucoup Eric Corain d'avoir participé à ce numéro de Politique, donc une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Émilie Valla, émission enregistrée dans les studios de Radio France à Bruxelles et que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. À 12h45, vous retrouverez la suite dans Les Idées avec Sylvain Bourmeau. Je vous retrouve pour ma part lundi à 18h20 dans Du Grain à Moudre. Et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.